Europe 1, il est 8h.
Tous les musées à Turin étaient fermés pour le week-end. Tous les matchs de foot, ils ont été reportés. Donc je pense qu'ils prennent pas ça non plus à la légère. Quoi. Mais bon, pas à la frontière apparemment.
L'Italie, premier foyer européen du coronavirus. Et pourtant, aucun contrôle dans le tunnel du Mont Blanc. Nous serons sur place dès le début de ce journal.
Les élèves revenant d'Italie du Nord ou de Chine doivent rester chez eux. 14 jours à la maison, le gouvernement rassure. Tout est prêt en cas d'épidémie.
Nous agissons vite, nous agissons fort pour assurer la sécurité des Français.
Agnès Buzyn, Anne Hidalgo, round numéro 2. La maire de Paris sera dans 15 minutes à votre micro, Sonia, pour répondre à la candidate La République En Marche.
Répondre aux accusations d'impréparation de la ville de Paris face à une éventuelle épidémie. Accusation faite ici même, hier. Anne Hidalgo compte bien se défendre, preuve à l'appui.
La campagne municipale à Paris, où la propreté est devenue l'un des enjeux principaux. Une compétence qui relève de la mairie de Paris et non des maires d'arrondissement, aux grand dames de certains Parisiens.
Vous avez l'exemple sous les yeux. C'est une catastrophe. Mais c'est pas les maires d'arrondissement qui gèrent la propreté de Paris.
La première victoire en justice du mouvement MeToo. Harvey Weinstein est en prison, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle.
8h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
L'Italie, principal foyer européen de coronavirus. La péninsule compte 7 morts, toujours dans le nord du pays. 229 contaminations, 11 communes coupées du monde en quarantaine, près de Milan et Venise.
Et le risque de pandémie est désormais ouvertement évoqué par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui inquiète des élus français qui demandent des contrôles renforcés aux frontières pour éviter toute propagation.
Alors, cette inquiétude est-elle légitime? Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Sonia.
Pour Europe 1, vous avez emprunté le tunnel du Mont-Blanc de la Haute-Savoie, la vallée d'Aoste. Est-ce qu'il y a eu des contrôles en chemin ?
Non, Sonia, aucun contrôle, ni pour aller vers l'Italie, ni même pour rentrer en France. Juste une barrière de péage, une carte bleue et le tunnel du Mont-Blanc devient la route 66. Il y a bien un message qui s'est lu automatiquement sur mon autoradio.
Benvenuti al traforo del Monte Bianco.
Mais là non plus, rien sur le virus, uniquement des consignes de sécurité routière. Ce qui étonne beaucoup ces automobilistes français et italiens que j'ai rencontrés des deux côtés de la frontière.
Et bien sûr qu'ils doivent faire des contrôles.
On parle de fermer les frontières, enfin apparemment on n'en est pas encore là quand même.
La chose plus simple, faire des contrôles des températures
de
des personnes.
Oui, mais bon.
Il fait déjà à l'aéroport, à Fiumicino, à Malpensa, à Milan. À Venise, il fait déjà des contrôles
oui,
de température.
Tous les musées à Turin étaient fermés pour le week-end. Bah, c'était vraiment tout fermé. Tous les matchs de foot, ils ont été reportés. Donc je pense qu'ils prennent pas ça non plus à la légère. Quoi. Mais bon, pas à la frontière apparemment.
Le gouvernement a pourtant demandé hier, en fin d'après-midi, aux sociétés d'autoroutes de la région de renforcer au moins l'information sur le virus, sur sa présence dans le nord de l'Italie, ses symptômes, ses moyens de transmission. Mais pour le moment, toujours rien, que ce soit en Haute-Savoie ou de l'autre côté des Alpes.
Pierre Herbulot, en direct du tunnel du Mont-Blanc pour Europe 1 ce matin.
De nouvelles recommandations à présent, des recommandations émises pour les Français qui reviennent des zones touchées par le coronavirus.
Autrement dit, la Chine continentale, Singapour, la Corée du Sud et donc le nord de l'Italie. Recommandation que nous détaille pour Europe 1, Virginie Salmen.
Pas de classe pendant les 14 jours qui suivent le retour de voyage. C'est la recommandation officielle pour les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. La raison est simple, il est trop compliqué de faire porter un masque à un enfant pendant toute une journée. Même consigne pour les bébés qui ne doivent donc pas aller en crèche. Pour les adultes, pas de contre-indication formelle. Vous pouvez aller au bureau ou à l'université avec un masque simple, même si les autorités demandent de privilégier le télétravail quand c'est possible. Mais attention, pas de réunion ni d'ascenseur avec des collègues ou de déjeuner à la cantine. Il est également demandé de ne pas aller au restaurant ni au cinéma, aucune sortie non indispensable, ni d'utiliser les transports en commun. Et bien sûr, prendre sa température deux fois par jour et dès qu'elle monte ou si de la toux ou des difficultés à respirer apparaissent, appelez le 15.
Et pour faire face à une éventuelle épidémie en France, on vous le racontait dans le journal de 7h, le gouvernement a annoncé ces derniers jours la commande de plusieurs dizaines de millions de masques bien particuliers.
Les FFP2 coniques plus épais que les simples masques chirurgicaux que l'on voit fleurir dans les rues.
Des masques destinés en priorité aux hôpitaux qui, eux aussi, se préparent, comme l'a indiqué hier le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Aujourd'hui, tout est mis en place pour freiner l'introduction du virus sur le territoire. Par le dépistage des cas possibles notamment, nous avons augmenté considérablement nos capacités diagnostiques. Par l'isolement des malades, et je vous annonce qu'il n'y a eu aucun malade hospitalisé en France, le dernier patient qui était hospitalisé à Lyon est guéri, n'est plus contagieux et a pu rentrer chez lui. Voilà ce qui peut rassurer nos concitoyens. Nous agissons vite, nous agissons fort pour assurer la sécurité des Français.
Il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris. Les mots d'Agnès Buzyn il y a 24 heures, hein, c'était hier sur Europe 1, votre micro Sonia. L'accusation de l'ex-ministre de la Santé, désormais candidate de la majorité à la mairie de Paris, à l'encontre de la maire sortante Anne Hidalgo, qui n'aurait pas suffisamment préparé à Paris une éventuelle épidémie de coronavirus.
Anne Hidalgo répondra à Agnès Buzyn ce matin sur Europe 1. Rendez-vous dans quelques minutes à la fin de ce journal.
Dans cette bataille des municipales à Paris, la propreté est un enjeu essentiel du scrutin.
Et même une question sensible qui est centralisée par la mairie de Paris. Ce que dénonce une grande partie des maires d'arrondissement, ils réclament en fait de pouvoir gérer la propreté de leur secteur. Jean-Rémy Baudot.
Sur le trottoir d'une rue du 17e, des détritus, des encombrants. Le maire d'arrondissement, Geoffroy Boulard, dépité, n'a pas les moyens de les faire enlever.
Le maire d'arrondissement, il n'a pas le pouvoir de propreté. Tous les ateliers de service propreté répondent à des objectifs qui sont fixés à l'hôtel de ville par l'adjoint auprès d'Anne Hidalgo.
Une passante s'approche, s'agace de la saleté des rues.
Vous avez l'exemple sous les yeux, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas les maires d'arrondissement qui gèrent la propreté de Paris.
C'est justement le problème.
C'est la grande frustration qu'on a en tant que maire. Nous, on est là pour améliorer le quotidien. Premier sujet, c'est la propreté.
Propreté, sécurité, circulation, des compétences presque uniquement centralisées à l'hôtel de ville. La voirie ou le logement sont plus partagés. Direction le 3e arrondissement, le maire socialiste Pierre Edenbaum juge cette organisation acceptable, tout en admettant que des progrès seraient possibles.
On a la main. Je ne vous dis pas que j'obtiens toujours satisfaction. Je ne vous dis pas que demain, si je demande le doublement du personnel de propreté, je l'obtiendrai. Mais d'un autre côté, je n'ai pas de budget propre. On peut toujours aller plus loin, faire mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça donne à peu près satisfaction.
Anne Hidalgo est l'une des seules candidates à Paris à ne pas promettre de donner plus de compétences au maire d'arrondissement.
Vous restez bien sur Europe 1 dans un tout petit instant. La première victoire en justice du mouvement MeToo. Harvey Weinstein en prison, reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. On en parle tout de suite sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1, il est 8h08, la suite du journal, Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Il est en prison aux États-Unis. Harvey Weinstein a été incarcéré, l'ancien producteur star reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol après son procès à New York. Il encourt jusqu'à 29 ans de réclusion.
Accusé par des dizaines de femmes, Harvey Weinstein échappe toutefois à la prison à perpétuité. La circonstance aggravante du comportement prédateur n'a pas été reconnue.
Oui, mais il s'agit tout de même de la première victoire, il faut le souligner, devant la justice pour le mouvement MeToo à New York. L'envoyé spécial d'Europe 1, Loubna Anaki.
Sous le choc, à voix basse, Harvey Weinstein clame son innocence à l'annonce du verdict. L'ancien homme fort d'Hollywood vient d'être reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur l'actrice Jessica Mann et l'assistante de production Mimi Alehi. En revanche, les circonstances aggravantes de comportement de prédateur ne sont pas retenues. Il échappe donc à la prison à vie, même s'il encourt un minimum de 5 ans. Dès l'annonce du verdict, Harvey Weinstein est placé en détention où il devra attendre l'annonce de sa peine prévue le 11 mars prochain. Très vite, les avocats du producteur américain font savoir qu'ils feront appel. Pour eux, Harvey Weinstein paye en raison de sa notoriété et de la médiatisation de cette affaire. L'homme était devenu depuis 2 ans l'ennemi symbolique du mouvement MeToo, mouvement qui salue le début d'une nouvelle ère de justice pour les femmes. Même réaction du côté des avocats des victimes d'Harvey Weinstein. Gloria Allred parle d'un message fort adressé à tous les auteurs de ce genre de crime. À New York, Loubna Anaki pour Europe 1.
Direction le Royaume-Uni à présent où rien ne va plus entre Boris Johnson et les services de renseignement britanniques.
Le Premier ministre vient de remanier son gouvernement, mais voilà que son ministre de l'Intérieur est contesté par le renseignement intérieur. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Et Boris Johnson lui-même est mis en cause pour des vacances luxueuses dans les Caraïbes.
Alors Boris Johnson ne s'abandonne pas au plaisir des vidéos solitaires. Il ne se sert pas de sa femme comme femme de paille pour empocher des subventions. Mais c'est tout comme. Les leçons de morale tombent dru sur le jouisseur sur le Nanti. D'abord, il y a donc ces vacances sur l'île Moustique, le paradis au large des Grenadines où régnait jadis la princesse Margaret. Une île privée, c'est un rêve quand on est épuisé, mais pas pour un Premier ministre qui a juré de gouverner pour le peuple. Ensuite, il était logé gratis dans ce zoo pour milliardaires. C'est louche, forcément, et c'est choquant, parce qu'il est riche, Boris. L'audience de divorce la semaine dernière a révélé sa fortune, 8 millions d'euros, dont il laisse les 2/3 à son ex. Bref, les tabloïds ne lâchent pas. S'il était allé se reposer au milieu des eaux poissonneuses des îles anglo-normandes, on lui reprocherait le bar, ou pire, le homard, servi à table.
Pourquoi ? C'est la fin de l'état de grâce ?
Alors peut-être qu'au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, il y a un état profond qui qui ne se résigne pas à l'élection d'un tel énergumène. À Londres, comme à Washington, des maîtres espions prétendent qu'ils ne disent pas tout à la ministre de l'Intérieur, jugée peu fiable. Cette mutinerie a été démentie hier, mais la rumeur suffit. Des diplomates rapportent que Donald Trump a raccroché au nez de Bojo. Des magistrats s'impatientent parce qu'un rapport sur les ingérences russes n'est pas encore publié. Boris Johnson a triomphé à l'automne d'une révolte parlementaire et de la trahison des élus conservateurs. Il a gagné la bataille, mais il n'a pas gagné la guerre contre le système.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8 heures. Très loin des Caraïbes à présent, je crois, j'étais en train de calculer, à quelques 56 millions de kilomètres de là.
On peut pas compter sur les doigts,
56. La planète Mars livre quelques secrets. Le robot InSight, sur place depuis 15 mois, permet de tracer, écoutez bien, le portrait d'une planète vivante secouée par de nombreux séismes.
Et bonjour Philippe Lognonnet.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de physique du globe à Paris. Vous êtes le père, en quelque sorte, du sismomètre français embarqué par le robot InSight. Qu'avez-vous appris avec cette technologie ?
La première chose que nous avons appris, c'est que Mars a des séismes. On pensait que c'était fortement probable qu'il y en ait, mais cette fois-ci, on les a vus, on les a détectés, et on en a même détecté à ce jour 460, dont une quarantaine de séismes relativement profonds qui nous donnent beaucoup d'informations sur l'intérieur de la planète.
Est-ce que c'est surprenant ?
Alors, d'abord, c'est toujours émouvant et surprenant d'avoir un instrument qui fonctionne parfaitement et tout le travail qui a été réalisé par les ingénieurs de l'IPG, du CNES, aujourd'hui nous permettent d'avoir les meilleures données sismiques du monde, vraiment du monde, pour Mars évidemment, et des tout petits événements, des séismes de magnitude 3.5 qu'on peut détecter à quelques milliers de kilomètres de là où on est.
Sans rentrer dans le détail, Philippe Lognonnet, voilà. Cette affaire de tectonique des plaques sur certaines régions de la planète Mars va nous en dire plus sur l'histoire de la planète.
Oui, mais alors c'est pas de la tectonique des plaques. Effectivement, nous avons trouvé que dans la région de Cerberus, on a détecté les plus gros séismes, des séismes de magnitude 3.6, et on pense que c'est tout simplement dans cette région-là le manteau de Mars qui se refroidit après une activité volcanique il y a une dizaine de millions d'années.
Merci à vous Philippe Lognonnet. Avec vous, on n'a pas la tête dans les étoiles, mais sur Mars, c'est pas si mal. Merci d'être intervenu en direct dans le journal de 8h.
Il est 8h13, votre invité politique Sonia.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, candidate à sa réélection. Hier, à ce micro, sa rivale Agnès Buzyn l'a accusée de ne pas avoir anticipé une éventuelle épidémie de coronavirus à Paris. L'accusation est grave, elle y répond dans quelques instants. Bonjour Anne Hidalgo.
Bonjour.
A tout de suite sur Europe 1.